qui a fait que j'ai vraiment voulu travailler sur la biographie, c'est tout simplement que je voulais le faire avec mes grands-parents pour réussir à faire en sorte qu'on arrive à se raconter avec, notamment avec mon grand-père qui a vécu la Seconde Guerre mondiale, qui a été résistant.
Bonjour à toutes et à tous et merci de l'attention que vous portez au podcast L'Aventure des Récits depuis ses débuts. Et si vous nous rejoignez à l'instant, sachez que vous vous reliez à un groupe d'auditeurs qui partagent la même passion pour la lecture, pour l'écriture, l'image, pour les récits, quelle qu'en soit leur forme. Et qui ont aussi, il faut bien le dire, un certain goût pour l'aventure. Celle qui permet à toutes et à tous, sans exception, de se lancer dans de grands projets de création. Alors n'hésitez pas à explorer ce podcast et ses territoires, car vous pouvez y trouver du contenu à la fois divertissant et instructif, utile et inspirant. Seul ou avec mes invités, je vous parle de ce que c'est qu'être auteur et des moyens de diffuser ce que l'on crée pour partager, pour transmettre, pour informer. Vous êtes prêts? Vous êtes prêtes? Alors c'est parti! Elle voyage, elle écrit, elle photographie, elle édite. Elle crée des passerelles aussi bien dans l'espace géographique entre les pays du monde que dans l'espace temporel, favorisant les liens intergénérationnels. Vanessa Burig, fondatrice des éditions Akasha, est mon invitée aujourd'hui. Car vous l'avez compris, au fil des épisodes, j'ai ici l'ambition d'encourager la création de récits sur toutes ses formes. Il me faut donc nécessairement recevoir des personnes dont l'activité et justement d'aider les autres à écrire leur propre histoire, voire à écrire le livre de leur vie. Bonjour Vanessa, et d'abord merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation à venir partager ton expérience sur l'aventure des récits.
Bonjour Sabine, merci pour ton invitation. J'ai hâte qu'on discute ensemble et qu'on échange sur tous ces beaux sujets.
En tout cas, aujourd'hui, grâce à toi, Vanessa, nous allons découvrir le très beau métier de biographe. Et alors, n'oubliez pas que vous pouvez retrouver ce jeudi, comme toutes les semaines, le pouce du jeudi, qui reviendra sur les questions pratiques liées à l'activité de biographe et que vous pourrez lire l'article connexe sur devenirauteur.com. Vanessa, tu vas donc nous parler de ce que c'est qu'être biographe. Et même, je crois, photobiographe. J'ai envie d'ajouter audiobiographe. Et on va comprendre pourquoi tout au long de cet épisode. En effet, Vanessa a créé au sein des éditions Akasha un outil qui prend la forme d'un livre papier sonore que l'on peut acheter pour créer sa propre histoire ou pour célébrer un événement. Et il me semble que ce livre vient de recevoir très très récemment le prix de la nuit du livre dans la catégorie nouveau format. Alors d'abord, je vais commencer par te féliciter. Félicitations Vanessa pour ce prix.
Merci, oui, mais donc tu as bien raison, on a remporté le prix en septembre dernier de la nuit du livre, en effet, dans la catégorie nouveau format. Donc c'était une très grande nouvelle parce que ben, au final, on était quand même devant Albin Michel et Gallimard. Donc gros mastodonte. Donc on était ravis de remporter ce prix et je ne me rendais pas compte avant que c'était quelque chose de prestigieux dans l'édition. J'avais postulé sur les conseils d'un contact. Très, très 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 bonne nouvelle et puis ça fait du bien aussi d'avoir des prix parce que voilà, on travaille beaucoup dans l'ombre quand on est entrepreneur et puis des fois en fait avoir des petits retours comme ça du monde professionnel, c'est quelque chose qui redonne beaucoup d'énergie.
Ah oui, c'est génial, félicitations encore. Et bah justement, on va retracer ton parcours, voir comment d'où tu es partie, puis comment tu es arrivée jusqu'ici aujourd'hui. Et alors, d'abord, il me semble, Vanessa, que tu as beaucoup voyagé, que tu as même été auteur de guide de voyage. Tu sais pas encore, mais beaucoup de mes auditeurs, je pense sans doute. Parmi les auteurs que j'admire le plus, les écrivains voyageurs occupent une place particulière. Alors, c'est pas sans raison que j'ai appelé ce podcast « L'aventure des récits ». Et je crois que tu es toi-même une amoureuse des livres et des carnets de voyage.
D'ailleurs, le livre a remporté un prix pour le nouveau format. Mais c'était aussi un livre que j'avais créé, qui est d'ailleurs visible sur le site Akasha, où c'est justement un livre sur le Spitzberg, donc où je suis partie en excursion donc arctique pendant à peu près 2 semaines. Et c'était justement un livre, c'est un livre, pardon, qui retrace toute une épopée comme ça dans ce monde incroyable de glace, d'ours polaire, enfin voilà, qui est un monde fou en fait que je souhaite à tout le monde un jour de voir dans sa vie. Et on tourne les pages du livre, on est immergé comme ça dans un voyage photo, sonore, on a la voix des personnes sur place, les chercheurs, et c'est vraiment quelque chose qui me passionne au plus haut point. Donc c'est vrai que d'avoir gagné le prix là-dessus, c'était un petit clin d'œil aussi à tout ce parcours que j'ai, tant dans ma vie personnelle, parce que j'ai été fille d'expatriée, donc j'ai vécu jusqu'à mes 16 ans à l'étranger. Voilà, j'ai pas mal baroudé par le métier de mon père qui était géologue. Et puis après, en effet, par passion du voyage, je suis devenue éditrice dans les guides de voyage. Donc ça a continué professionnellement, tant du côté éditrice d'ailleurs que auteur, parce que après je suis devenue du coup, j'ai basculé de l'autre côté où j'avais plus envie de voyager qu'être derrière mon bureau. Donc jusqu'il y a peu, là j'ai pas repris avec le Covid. Mais j'étais vraiment spécialisée dans les régions nordiques.
D'accord.
Pour les guides de voyage. Donc ça reste toujours une passion, mais c'est vrai que pour l'instant, elle a j'ai un peu moins le temps de m'y consacrer. Quoi.
Tu as même, je crois, écrit un mémoire d'études sur les voyageuses écrivaines françaises en Amérique, c'est ça ?
Exactement, oui, tu es bien renseignée,
dis donc. J'ai fait une petite recherche. Oui, parce qu'on ne s'est jamais rencontré avec Vanessa, toutes ces surprises encore.
Oui, exact. Oui, j'avais même oublié, tu vois. C'est bien, tu es ma plus grande biographe. J'étais en fac d'histoire. Moi, j'ai fait des gender studies. Donc, j'étais très intéressée surtout par l'histoire des femmes, en l'occurrence. Et j'avais envie de m'intéresser aux femmes voyageuses au 19e siècle. D'ailleurs, à la base, je voulais faire femme écrivaine, photographe, voyageuse. Bon, c'était un peu compliqué, la photo avec les femmes à l'époque déjà. Je suis restée sur les écrivaines. Et en effet, c'est un sujet qui me passionne au plus haut point de voir comment le voyage à l'époque pouvait être signe d'émancipation pour une femme. Ou pas d'ailleurs, parce qu'il y avait beaucoup de femmes qui voyageaient en tant que religieuses, par exemple. Donc, c'était pas forcément une émancipation en tant que telle. Mais oui, en effet, j'ai aussi fait de la recherche dessus. Bon, je suis pas restée longtemps parce que la recherche, je pense, c'est un milieu qui me convient pas, de rester toute la journée enfermée à parler à personne. Mais j'avais besoin justement d'être dans le voyage. Mais j'ai fait un sujet sur les voyageuses écrivaines françaises au 19e siècle.
Oui, non, on a compris que le mouvement, c'était important pour toi. Et est-ce que tes premiers récits sont passés par la photographie ?
Oui, je pense, parce que j'ai toujours écrit, mais je n'ai jamais vraiment fait acte de publier ou de montrer mon travail d'écrit personnel. Par contre, en tant que photographe, parce que du coup, c'est mon autre activité, que ce soit photographe, on va dire, professionnel pour des clients ou photographe auteur, donc plutôt artistique. Là, j'en ai fait beaucoup de thématiques sur le voyage. Là, j'ai fait des expositions, j'ai montré ce travail. Donc oui, je pense que c'est surtout la photo aujourd'hui qui a été jusque-là, même si aujourd'hui, je suis en train de faire d'autres projets, où justement, j'utilise la forme que j'ai inventée, de livre sonore pour raconter ma vie. Je suis en train de faire un travail biographique sur mes origines, mais qui est plutôt artistique pour le coup.
Quel est l'événement qui fait finalement qu'on passe de cette dynamique du déplacement géographique, du voyage, à la dynamique du déplacement temporel ? C'est-à-dire que tu te mets à travailler finalement dans le temps, sur la mémoire, sur la transmission.
Oui. Alors, je pense qu'il y a plusieurs éléments. Déjà, j'ai envie de dire que la photographie est déjà un déplacement temporel en tant que tel. Donc, je pense que déjà, le fait que j'ai été fascinée... déjà, j'ai fait des études d'histoire. Donc déjà, je pense que à l'époque, je ne me rendais pas compte, mais j'étais fascinée... ça fait sens aujourd'hui, mais sur le coup, on ne se rend pas compte. J'étais fascinée, évidemment, par ces voyages temporels et de comprendre d'où on vient, qui on est. Enfin, moi, je sais que ce qui m'animait quand j'ai commencé une fac d'histoire, c'était de comprendre l'humanité et comment on en est arrivé là aujourd'hui. Et c'est vrai que j'avais envie d'avoir cette grande fresque comme ça dans ma tête pour mieux comprendre. Et après, j'ai été fascinée quand j'étais en fac d'histoire par un historien qui s'appelle Alain Corbin, qui est un historien incroyable, qu'on surnomme souvent historien du sensible. Et en fait, ça m'a fait des chocs à chaque fois de lire ces livres, parce que c'est vraiment l'histoire, mais à travers les sens, donc à travers les odeurs, à travers le corps, etc. Et je trouvais ça fascinant, tout comme l'histoire des femmes qui avaient été tuées, qui a été mise sous silence pendant très longtemps, qu'on puisse avoir une nouvelle manière de raconter l'histoire, en fait, de nos vies, de l'humanité même en général. Et je pense que la petite graine a commencé à germer ici, c'est pouvoir faire un voyage temporel de manière peut-être différente que simplement croiser des sources, parce que c'est un peu le jargon. D'accord. En histoire, on croise des sources. Donc on travaille sur différents documents et c'est souvent que de l'écrit, même si aujourd'hui ça a bien changé, le champ historique c'est beaucoup dépoussiéré, hein, il y a beaucoup de travail autour de l'audio maintenant, etc. Mais à l'époque c'était encore assez rare. Et après, je pense que dans ma vie personnelle, ce qui a fait que j'ai vraiment voulu travailler sur la biographie, c'est tout simplement que je voulais le faire avec mes grands-parents, que je n'ai pas réussi à le faire parce qu'il y avait toute cette pudeur qu'il y avait souvent, peut-être c'est différent avec les nouvelles générations, mais de réussir à briser un peu cette intimité-là pour réussir à faire en sorte qu'on arrive à se raconter avec ses grands-parents, notamment avec mon grand-père qui a vécu la Seconde Guerre mondiale, qui a été résistant. Et quand j'étais encore une fois en fac d'histoire, on y revient beaucoup finalement, j'avais essayé déjà de le faire parler sur son expérience de résistant. Mais c'était évidemment très dur pour lui, il faisait des cauchemars, donc j'arrivais pas à lui en faire parler plus de 1 ou 2 heures à chaque fois. Et il me rappelait le lendemain en me disant à chaque fois, je préfère qu'on arrête, c'est trop dur. Et je pense qu'il y avait aussi, de la part des personnes qui ont vécu des événements traumatiques, l'envie de ne pas retransmettre ça à ses enfants, petits-enfants, parce qu'on a l'impression qu'on va parler d'une violence qui n'est pas compréhensible. Je pense aux personnes Georges Champrin et tout. Beaucoup d'auteurs en ont beaucoup parlé de cette thématique, hein, de comment on transmet un peu les choses, les événements de guerre, ou si on a été incarcéré en camp, etc. Donc je pense qu'il y avait aussi cette pudeur et aussi cette difficulté à raconter l'horreur, hein, qui est pas facile. Voilà, j'ai eu la chance d'avoir un moment privilégié avec lui à la fin de sa vie, où on a pu parler une bonne partie de la nuit, où il m'a raconté beaucoup de choses, mais voilà, j'étais quand même très frustrée de ne pas avoir réussi à pouvoir, noter ses mémoires et en faire quelque chose en son honneur, même si aujourd'hui j'essaie de refaire un travail là-dessus, pour pas que tout ça ait été vain, entre guillemets. Mais voilà, en tout cas, disons que tout ça est né d'un blocage, du fait que j'arrive pas moi-même à raconter la vie de mes grands-parents, et que je trouvais ça extrêmement difficile, surtout quand c'est sa famille, il y a toujours un volet plus difficile, je pense. C'est moins, enfin, ça dépend des familles, mais je pense que très souvent, il y a quand même un lien si proche que des fois, on n'arrive pas à mettre la distance nécessaire pour que la personne prenne le temps de se raconter, de objectiver certaines situations. Voilà, j'ai perdu mes 2 grands-parents, j'ai pas réussi à raconter leur mémoire, et c'est vrai qu'ensuite, ce projet de biographie est né parce que j'étais bénévole en maison de retraite dans le 20e, et j'étais choquée de voir les personnes âgées qui étaient très, très isolées, qui étaient dans des salles des fois à 20, 30 personnes, 50, et il y avait un silence incroyable, sans vouloir faire de mauvais jeu de mots, de mort. Je me disais, c'est pas possible, ces personnes ont des vies incroyables, il faut qu'elles se racontent. Et j'ai aussi eu la chance à ce moment-là dans ma vie de rencontrer une dame qui est incroyable, qui s'appelle Valeria Milouski, qui a créé la biographie hospitalière en France, et qui m'a beaucoup inspirée, qui m'a raconté pourquoi elle faisait ça, et que j'ai revue plusieurs fois, on est toujours en contact, et qui me racontait qu'elle était toujours étonnée de voir à quel point la biographie, même en fin de vie, dans le milieu hospitalier, permettait aux personnes de se sentir vivant, bien qu'ils se sachent condamnés dans peu de temps. Et ça, j'en suis très convaincue, enfin, profondément convaincue. Il y a vraiment un acte, un élan de vie qui se crée quand on se raconte, qui fait énormément de bien. Et on n'est vraiment pas dans la biographie, justement, historique des grands hommes. On est dans cette pudeur, on est dans se raconter, transmettre ses valeurs. On n'est pas dans ma vie, mon œuvre, etc. On n'est pas dans quelque chose d'égotique.
Je suis très, très touchée par ce que tu viens de nous confier. Un peu bouleversée même. Je pense que ça fait écho à de souvenirs chez moi et puis chez les auditeurs également. Parce que voilà, moi, j'appartiens aussi à une génération. Mes grands-parents, comme les tiens, ont vécu ces moments-là. On parlait peu. Je me dis, si j'avais le son de sa voix, ce serait quelque chose d'extraordinaire, d'avoir la trace de ses récits. Mmh. Ça reste que par écrit, mais voilà, donc je vais essayer de rebondir, mais c'est vrai que ça...
Je pense qu'on est dans une génération qui est en train de bousculer tout ça. Donc ça, c'est super, et je pense qu'en effet, jusque-là, c'était difficile. Et je pense qu'aujourd'hui, on est en train de revaloriser la parole de nos aînés, de leur donner la... Bah déjà aussi mettre la lumière, hein, parce qu'il y a eu tellement de scandales, je ne parle pas forcément de l'actualité, mais autour des personnes âgées où on les délaisse. Et c'est vrai que la parole, je trouve, aujourd'hui est essentielle pour revaloriser tout ce qu'ils ont vécu et qu'on arrive à dépasser justement tous ces freins qu'on nous met très souvent, où on dévalorise nos histoires familiales. Donc j'espère qu'aujourd'hui, alors je parle de mon projet évidemment, mais pas que. Il y a beaucoup de biographes qui commencent à éclore. C'est un métier qui était un peu dans l'ombre au début, je pense qu'il est en train de changer. Il y a beaucoup de projets comme Entouréo, etc., qui permettent de raconter aussi la mémoire familiale. Donc, je pense que petit à petit, il y a quand même plein de choses qui sont en train de se faire. Et j'espère qu'en tout cas, la mémoire familiale va se révolutionner petit à petit que ça va devenir un acte presque normal de passer du temps avec ses grands-parents, parents, proches, à les écouter et à garder un petit écrin comme ça, où justement il y ait la voix, du texte, des photos.
C'est vrai que lorsqu'on est très jeune, on ne se rend pas compte à quel point c'est précieux ce que l'on reçoit lorsque nos aînés nous racontent. Des éléments de leur vie. Dans ta démarche, tu soulignes à la fois les bienfaits pour celui qui reçoit l'histoire, la mémoire, et les bienfaits pour celui qui raconte.
Oui.
J'ai vu également que tu parles même de biographie de l'âme, hein, et je trouve que c'est une très jolie expression. Il me semble que c'est justement pour souligner cette idée que... ça permet peut-être de faire sortir d'une certaine forme de solitude, d'isolement nos aînés et les aider justement à créer du lien, mais aussi peut-être à un certain moment de la vie de se redéfinir ou de retrouver une certaine, même j'allais dire, de vitalité grâce au récit.
C'est un peu ce que je dis à chaque fois quand on démarre une biographie avec un client, c'est on n'est pas forcément dans un souci de véracité historique. Ce qui est important, c'est de raconter sa vérité à soi, comment on s'en souvient, qu'est-ce qu'on a envie de transmettre, parce que très souvent on a l'impression que ça dépend des personnes, hein, mais souvent en tout cas qu'on a ce sentiment qu'on a fait une biographie justement historique. On est très influencé par la biographie historique classique des grands hommes, on va dire, alors qu'en fait pour moi une belle biographie, c'est Annie Ernaux par exemple, c'est personnes qui peuvent raconter l'intime mais de manière différente en fait, à sa manière. Donc je pense oui, quand je dis biographie de l'âme, c'est en effet alors la dimension audio qui pour moi a une place incroyable, puisque alors je vais reprendre la fameuse phrase de Barbara, mais je la cite tout le temps, mais je la trouve tellement forte et belle que je ne peux pas m'en empêcher, voilà, ou qui disait du coup que la voix et la musique de l'âme, et c'est complètement ça. Je trouve qu'avoir un livre dans lequel on puisse tourner les pages, avoir les photos de nos proches et la voix qui nous raconte, il y a quelque chose qui se passe, un bout d'âme, un bout de présence que l'écrit ne permet pas, même si encore une fois j'adore l'écrit, mais je trouve que l'audio mêlé à ces différents supports permet d'apporter quelque chose en plus. Où on peut vraiment ressentir le grain de la voix, le silence, les rires. Et du coup, c'est vrai que j'aime beaucoup appeler ça des biographies de l'âme. J'espère que quand les personnes tournent les livres des pages de leurs ancêtres avec un livre akasha, puissent ressentir en effet la personnalité de la personne et sa présence.
Alors justement, cet outil polysensoriel, est-ce que tu peux nous décrire ce concept ? Alors oui, une petite précision, comme toujours, vous retrouverez tous les liens qui concernent Vanessa et les éditions Akasha dans le descriptif de l'épisode. Et une petite nouveauté avec cet épisode, c'est que lorsque vous vous abonnez, vous savez que donc, vous me fournissez votre adresse email qui me permet de vous envoyer une notification lorsqu'un nouvel épisode y est. Mais à présent, je mettrai dans ce courrier directement aussi les liens. Qui ça vous permettra de gagner du temps, de ne pas forcément retourner dans le descriptif. Donc, vous allez recevoir tous les liens qui concernent Vanessa, donc en particulier l'adresse du site et les liens des réseaux sociaux. Voilà, je te laisse présenter.
Cet objet, je vais le décrire pour les auditeurs, ce qui est même bien que je vous invite à aller voir ensuite le livre sur le site Akasha. Il faut imaginer que vous ayez un livre classique entre les mains comme un album photo, à la différence que vous avez sur le support même du livre, sur la tranche du livre, un haut-parleur intégré avec aussi une prise jack sur laquelle vous pouvez brancher des écouteurs. Et en tournant les pages, vous avez du coup le son des pistes sonores de manière à pouvoir écouter sur chaque page ou différentes pages. Des fois, un son peut être étalé sur une page ou deux ou trois. Enfin, on choisit la voix d'un proche, une musique, une ambiance sonore. Vous choisissez l'illustration sonore qui vous convient par rapport au récit que vous êtes en train de créer. Et c'est un livre surtout qui a été créé pour ne pas avoir d'obsolescence programmée. C'est quelque chose qui me tenait beaucoup à cœur puisque l'idée, c'est que ce soit un livre qu'on puisse transmettre ensuite. Donc, il fonctionne avec des piles. Et qui permettent du coup de changer les piles dès que y a plus de batterie. Et en plus, c'est moins polluant que le lithium. Et que dire d'autre ?
Admettons que moi, je veuille utiliser ce livre pour... alors, ça peut être, par exemple, pour un cadeau, pour un anniversaire, et créer, donc, je peux aussi créer avec plusieurs personnes.
Oui, tout à fait.
Faire des enregistrements, alors, comment ça se passe ? Est-ce que c'est directement sur le site ? On dépose le son ?
Alors, il y a deux offres déjà. Donc, il y a une première offre qui est une offre où on est complètement autonome et on crée en effet tout seul en ligne.
Okay.
Et il y a une deuxième offre où du coup, c'est ce que j'appelle le premium, où c'est les clients qui travaillent directement avec moi et on réalise tout de A à Z.
D'accord.
La deuxième offre, je pense qu'elle est claire. et du coup, la première offre... il suffit du coup d'aller sur le site Akasha. Oui. Là, vous achetez un coffret. Et en fait, ça vous donne accès directement à un guide de création en ligne, de manière à vous aider à avoir plein de petits conseils pratico-pratiques, okay. Que ce soit sur les différentes thématiques, donc que ce soit biographie, naissance, grossesse, etc. Et ensuite, vous avez comme un album photo, un éditeur en ligne sur lequel vous pouvez donc glisser vos photos, mais aussi vos sons. Donc ça, c'est la différence avec les éditeurs classiques sur le marché, c'est que vous pouvez créer vos sons en ligne sur le site Akasha. Vous avez un petit bouton REC enregistré. Vous pouvez enregistrer votre voix. Vous pouvez aller charger directement vos pistes sonores. Donc, imaginons par exemple, vous voulez faire un livre, vous enregistrez votre mamie, un proche. Vous pouvez très bien l'enregistrer avec votre téléphone, par exemple. La fonction dictaphone est très qualitative aujourd'hui. D'accord. Sur les téléphones contemporains. Vous le chargez cette piste sur le site Akasha et vous la mettez sur la page qui vous convient. Et vous avez aussi une bibliothèque de sons libres de droit qui vous permet d'enrichir vos contenus sonores.
Ah oui.
Donc, par exemple, vous pouvez avoir des musiques, vous avez des sons d'ambiance, le son du vent, enfin, voilà. Ce qui permet des fois d'illustrer son récit de manière différente que par la voix si on le souhaite. Et surtout, la chose qui est super qu'on a développée, c'est d'avoir un mode aperçu. C'est-à-dire que quand vous pouvez tourner les pages des livres virtuellement avec le son. Donc vous avez tout de suite une prévisualisation du résultat de votre création avant impression, de manière à vraiment vous rendre compte de l'objet que vous êtes en train de créer. Et ça, je trouvais ça très important de le proposer aux clients, de manière à ce qu'ils puissent avoir en effet un aperçu en direct de ce qu'ils sont en train de faire. Et après, vous commandez et vous recevez à la maison votre livre Akasha sur mesure, avec des écouteurs et un petit pochon en coton dans lequel conserver le tout.
Ah, super. Puis vous verrez sur le site, je trouve ça très, au niveau du design, c'est très, très joli. Et on a une version numérique aussi ?
Alors, c'est une bonne question. Je me suis posé la question à le faire. Je suis même en train de réfléchir à faire une version que numérique. Parce que je me demande s'il n'y a pas des personnes qui aimeraient juste avoir cet outil numérique.
Oui.
Et le garder en fait après sur une sorte de Gallica de la mémoire. Gallica, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la BNF, la Bibliothèque Nationale Française en ligne, c'est les archives numérisées. Et du coup, de proposer une offre, en fait, on crée son livre et on peut le conserver au format numérique également, si on le souhaite. Donc, c'est en cours de réflexion, mais je pense qu'en effet, ce serait une bonne idée.
Voire évolutif, on pourrait imaginer, ouais. Que, je pense à la naissance où il pourrait y avoir juste plusieurs mois, voire plusieurs années. Oui.
Ouais, aussi.
Peut-être sous la forme d'un abonnement, je ne sais pas si c'est, je sais pas comment.
Sous la forme d'un abonnement, ouais. Voilà, c'est en pleine réflexion.
D'accord.
De réfléchir à ça pour qu'en effet, il y ait un suivi sur le temps. Je suis en train de réfléchir aussi à des. Au fait de créer des communautés, c'est-à-dire que quand on crée son livre, on reçoit une question, par exemple, toutes les semaines ou tous les 2-3 jours, on choisit le rythme. Et quand on répond à la question, via un audio et une photo, par exemple, on peut inclure éventuellement une communauté dans la réponse, qui fait que quand on crée, en fait, on a, par exemple, ses enfants, ses petits-enfants qui voient nos réponses au fil du temps. Ça permet comme ça de créer du lien, de motiver aussi les personnes âgées qui, des fois, ont l'impression que trop souvent d'ailleurs, c'est le cas, hein. Ils ont l'impression que leur souvenir ne compte pas, que tout le monde s'en fiche, ce qui n'est vraiment pas le cas du tout. Donc ça peut être aussi une manière de stimuler la personne en train de créer en se disant bah, « oh, super, si je réponds à cette question, bah, mes petits-enfants vont le voir, ça va peut-être engendrer des discussions. » Toujours dans ce lien intergénérationnel, donc là je parle de la biographie, mais non, ça peut être pour d'autres thématiques, hein, une naissance, ou pour... Par exemple, un anniversaire, on peut aller créer à plusieurs livres en ligne aussi.
Je crois que sur le site, il y a un exemple d'une personne, oui, qui s'appelle Mireille. Et on peut aller voir déjà.
Oui, alors là, j'invite vraiment les auditeurs à aller voir surtout cette partie sur le site, parce que je pense que c'est la plus parlante, qui est en fait l'onglet liseuse. Donc en fait, j'appelle ça la liseuse Akasha. C'est nos livres en ligne, donc on peut les consulter en tournant les pages. Et avec le son. Et donc là, il y a 3 livres en ligne. Il y a celui du Spitzberg, dont je parle au début du podcast, qui a remporté le prix. Il y a celui de Mireille, qui est une biographie. Et celui de Maude, de Néphélie, qui est du coup sur l'histoire de sa grossesse et de la naissance de leur petite fille Néphélie, qui permet donc de découvrir aussi la thématique naissance. Et puis j'espère en mettre au fur et à mesure en ligne pour que les gens aient plein d'autres exemples thématiques en ligne. Voir sur le long terme, j'aimerais aussi être une maison d'édition traditionnelle et vendre les livres des personnes sur le site Akasha s'ils le souhaitent.
Alors on rassure les gens, c'est lorsqu'il y a autorisation, évidemment, qu'il n'y a pas publication. C'est pas parce que, alors pour des personnes qui ne seraient peut-être pas forcément à l'aise, c'est pas parce que ça se passe en ligne et qu'on dépose des contenus audio et photos que ça devient public. Hein,
RGPD là-dessus est très clair. Enfin, je veux dire, on fait très attention à la protection de nos données de nos clients. Donc, bien évidemment, c'est seulement si un auteur a une velléité comme cette publication, j'aimerais qu'Akasha devienne une maison d'édition traditionnelle et qu'on puisse revendre les œuvres de nos clients ou de nos artistes. J'aimerais bien après travailler avec des artistes aussi, de faire des œuvres à part entière. Voilà. Ça fait partie des nombreux projets en cours.
D'accord, très beau projet. Et tu parlais de 2 options, et il y en a une que tu proposes où tu proposes un accompagnement.
Oui.
Comment ça se passe lorsque tu accompagnes quelqu'un? Je suppose qu'il y a des moments de rencontre.
Chaque histoire est différente, donc ça je tiens à le préciser. J'ai jamais eu une expérience similaire d'une personne à l'autre. D'un client à l'autre, mais globalement on peut quand même tracer quelques grandes lignes. Il y a la première rencontre où la personne me contacte, j'essaye de comprendre l'histoire de la personne, ce qu'elle veut transmettre, à qui elle veut le transmettre, comment elle veut le transmettre, et ensuite de lui proposer au plus vite une forme de chapitrage, de sommaire de sa vie, de manière à structurer nos entretiens. Donc, c'est-à-dire qu'après, l'idée, c'est de se dire, bah, c'est par exemple, vous voulez raconter ceci, 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 ceci. On peut très bien commencer à imaginer X séances sur 2-3 heures. Et après, on déroule la pelote et on avance ensemble petit à petit. Généralement, j'aime bien, alors ça dépend des clients, mais moi, j'aime bien travailler en partant plutôt du récit de la personne. Et ensuite, on agrémente avec les photos parce que je trouve qu'on n'oublie rien quand on parle vraiment de soi avec la voix, on va dire. Et après, on va enrichir. Mais il y a des clients pour qui on va partir des photos directement et ensuite, on va mettre la voix. Mais il y a tout un travail comme ça à faire, un juste milieu à trouver. Et ensuite, évidemment, il y a une relecture par le client, des éventuelles corrections et une impression, une remise des fichiers. Enfin,
quelles sont les qualités ou les compétences on imagine que parmi les gens qui nous écoutent, là, il y a des personnes qui se disent « Ah tiens, c'est intéressant cette activité de biographe ». Quelles sont les compétences fondamentales, selon toi, pour devenir biographe ?
Évidemment, l'écoute de l'autre, c'est la base. La curiosité, l'humain, c'est-à-dire savoir mettre l'autre à l'aise, hein, parce que même dans mon métier de photographe, je le vis au quotidien, c'est si on n'arrive pas à créer un lien intime, c'est difficile. C'est évident. Enfin, après, disons que le biographe, pour moi, je l'associe beaucoup à l'écrit. Donc, évidemment, être à l'aise avec la langue française, l'écrit, avoir une certaine culture de la biographie. Moi, j'ai fait une formation chez Alep, que je recommande vivement, qui m'a quand même beaucoup aidée, parce qu'il y a quand même certaines techniques à mettre en place, donc on se sent déjà, un, pas toujours légitime de le faire sans formation, et deux, c'est une formation tellement qualitative et humaine. J'ai rencontré des personnes incroyables durant cette formation, et c'est vrai qu'on a quand même plein d'outils qui nous sont donnés. Par exemple, il faut être dans ce qu'on appelle l'écoute active, donc ne pas influencer la personne qu'on écoute, tout en l'incitant à se raconter, et tout en ne mettant pas en place nos propres projections inconscientes, des fois, sur les biographies des autres, les récits de vie des autres. Donc, il y a tout un travail comme ça à faire de juste mesure.
Bien sûr.
Mais qui, finalement, je pense qu'il faut se faire confiance. Moi, je sais que j'avais très, très peur de ça au début, de déformer la parole de l'autre. Mais encore une fois, on s'adapte. Il y a des personnes, elles vont nous laisser carte libre, on le sent tout de suite. Elles ont envie que ce soit nous qui prenions des initiatives pour elles, et elles valident ou pas, évidemment, ensuite. Inversement, des personnes qui veulent à tout prix avoir un récit d'une telle manière, etc. Donc, on est beaucoup plus dans la retransmission de ce qu'ils souhaitent. Donc, voilà, il y a tout un travail là-dessus humain, d'expérience. En fait, je pense qu'il faut faire des biographies pour ensuite comprendre les rouages derrière qui peuvent se mettre en place. Mais je pense que le plus dur dans la biographie, c'est de réussir à structurer son temps et ne pas se perdre dans des méandres de vie, parce que finalement c'est assez onéreux, donc il faut quand même réussir à cadrer assez vite, tout en restant dans l'humain et un temps d'écoute où on essaye aussi de pas contrôler le temps, justement, paradoxe. Il faut en même temps écouter et laisser la parole libre, en même temps structurer. Donc je trouve que c'est peut-être ce qu'il y a de plus dur. Et ça, je pense que oui, c'est bien de faire une formation, et c'est bien de pratiquer plusieurs biographies gratuites au début pour se faire la main.
Je suppose que tu te souviens de ta première, de ton premier accompagnement.
Oui. Bien sûr, oui. Ça m'a marqué. C'était génial. C'était ma libraire.
C'était ta libraire.
C'était ma libraire. En fait, mes parents sont en Bretagne, à l'île aux Mônes. Donc, on a une maison de famille ici. Et quand j'étais plus jeune, il y avait une librairie à l'époque qui s'appelait L'âme vagabonde, qui était tenue par Françoise Sylvestre, et qui était une dame que j'aimais beaucoup, qui me fascinait, qui était une voyageuse aussi, ouais. une grande voyageuse, sa librairie était vraiment un temple du voyage. C'était génial, elle avait plein de beaux livres à découvrir. Et quand j'ai commencé ma formation de biographe, justement, je me suis dit, j'ai pensé à elle tout de suite. Je me suis dit, je veux faire une biographie sur elle. C'est quelqu'un de passionnant, qui a vécu des choses, de belles choses. Et je lui ai allé le proposer, elle a accepté. Donc voilà, c'était un très beau moment et le livre, je trouve très chouette. Et puis avant son retour, c'était super, elle était très contente et tout. Donc c'est, voilà.
On a fermé la boucle, on avait commencé par le voyage et le livre, et puis on y revient. Qu'est-ce que tu as ressenti, toi, lorsque ce premier livre, ce premier récit a été construit, que tu pouvais le...
Je me suis enfin autorisée à me dire que c'était possible, parce qu'en fait, j'avais cette idée en moi de biographie sonore papier depuis très longtemps, mais je n'arrivais pas à la mettre en œuvre, parce que, j'étais débordée par ma freelance, et deux, je n'arrivais pas à le mettre en forme, quoi. J'avais des blocages, très clairement. Donc ça m'a, voilà, je me suis dit c'était possible. Et puis quand j'ai vu que ça plaisait le résultat, j'ai eu des très beaux retours. Je me suis dit ok, en fait, tu es capable de faire quelque chose qui parle et qui a une âme justement. Et là, ça a été vraiment un élément déclencheur très fort.
Moi, je trouve ton travail d'utilité publique, c'est vraiment oui, tout ce que ça peut apporter à nos aînés, puis enfin, à tout le monde finalement, dans cette transmission, dans ces liens intergénérationnels. Donc, merci beaucoup. Et puis, pour terminer, une question que je me pose beaucoup en ce moment, c'est celle, en côtoyant des auteurs qui sont aussi des entrepreneurs. J'ai le sentiment que toi aussi, tu as ces facettes. Tu es une artiste, tu es photographe, tu es auteur. Et puis, il y a ton entreprise également. Et je m'aperçois qu'il y a quelque chose qui est en train de changer dans cette idée parfois commune qu'on ne peut pas être à la fois artiste et entrepreneur.
Ouais, c'est un peu schizophrénique quand même, parce que des fois, je me pose la question. Donc, c'est pas évident au quotidien, parce que par exemple, je suis assez frustrée d'avoir mis de côté mes projets artistiques, même si le Spitzberg en est un. Je le vois quand même comme un guide de voyage, donc je le vois comme moins artistique, on va dire. Après, je suis peut-être un peu trop dure avec moi-même, mais je pense en tout cas que la vision de l'artiste romantique qui crée sans structure n'existe pas. Je pense que tous les grands artistes de ce monde sont des personnes qui travaillaient beaucoup, de manière acharnée. Donc en fait, il n'y a pas d'art sans travail derrière, forcément. Et souvent, ce sont justement des mini-entreprises. Alors, il y a la vision de l'artiste qui a son agent, qui fait ses expositions. Donc, en effet, il n'a pas à gérer le côté entrepreneurial. Donc, c'est super, ils ont de la chance. Et c'est vrai qu'après, dans un cas comme Akasha, c'est pas, enfin, je suis passionnée par ce que je fais, mais c'est vrai que, par exemple, des fois, je dois faire de la compta, je dois faire ce qu'on appelle des business plans. Donc ce sont des prévisionnels, enfin des choses qui me dépassent complètement, mais qui sont essentielles pour structurer un rêve en fait. Donc et je pense qu'aujourd'hui on peut pas rêver sans avoir des projets comme ça très concrets. Surtout moi j'ai un projet qui est ce qu'on appelle de la R&D, donc de la recherche et du développement dans l'innovation, qui coûte cher, donc où j'ai dû travailler avec un bureau d'études, enfin. C'est de l'ingénierie, donc il y a vraiment un volet où j'ai dû lever des fonds. Et ça, c'est vrai que des fois, je ne m'y retrouve pas. Mais en même temps, sans ça, je n'aurais jamais pu créer ce livre, cet objet. Et je crois que c'est le passage obligatoire, tout comme quand on fait des études. Des fois, on n'a pas envie de passer des heures à étudier, on a envie d'être tout de suite dans son métier. Je pense que c'est le passage obligatoire pour arriver où on veut aller. Et je pense qu'il n'y a pas d'art sans ces passages difficiles.
Ah, merci beaucoup, Vanessa. Vraiment, je trouve que tu incarnes parfaitement l'aventure des récits. Même les aventures, de multiples aventures des récits.
Ah ben, merci.
Le podcast L'aventure des récits, j'avais commencé par un épisode qui s'appelait L'enfant inspirant. C'est un documentaire qui est dans les pas de Lou et qui racontait le voyage d'une adolescente. Elle avait 12-13 ans. Dans l'Himalaya, et qui se promenait de partout avec son carnet de voyage, en notant, en faisant des dessins, en notant ses rencontres. Je fais un peu penser à elle également, et j'ai envie de te demander, tu dois avoir en tête probablement un prochain voyage, une idée de destination. Si demain tu pouvais repartir, quelle serait ta destination?
Difficile. Difficile comme question. J'ai envie d'aller partout. Alors, j'ai fait beaucoup, du coup, les pays nordiques. Moi, je suis très attirée par les grands espaces sauvages où il n'y a personne, et la nature. Et le voyage du Spitzberg, qui est mon vrai gros dernier voyage, en effet, depuis, mais voilà, m'a donné ce déclic d'observer les animaux. C'est incroyable, en fait. Et c'est pour faire un clin d'œil aussi à Vincent Munier et Sylvain Tesson, La Panthère des Neiges, qui est un film incroyable. Une épopée incroyable, et je suis très 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 fan de ces deux personnes, et voilà, j'ai envie de faire aujourd'hui des voyages où on est dans la contemplation et on regarde plus la nature autour de soi, et moins peut-être dans cette accumulation d'expériences que j'ai pu avoir, surtout en tant qu'auteur de guide de voyage, où en peu de temps on accumule beaucoup d'expériences pour écrire ces livres. Ça, c'est... J'ai pas de destination précise en tête, mais voilà, en tout cas, des voyages où on est à l'écoute et dans la découverte de la nature autour de soi.
Merci, merci beaucoup Vanessa pour nous avoir confié tout ça, pour nous avoir partagé tes expériences en tant qu'artiste, entrepreneur, biographe.
Avec grand plaisir, merci à toi pour l'invitation. C'était un très beau moment.
Merci, à bientôt. Tous les lundis, vous pouvez écouter la conversation de la semaine dans un épisode dans lequel j'interviewe un auteur au sens large du terme, c'est-à-dire quelqu'un qui participe à la création de récits. Et puis tous les jeudis, je publie le pouce du jeudi, c'est-à-dire un court épisode en prolongement à l'interview qui sert à éclairer un point en particulier qui a été soulevé, qui sert également à vous donner des informations, voire des outils que vous pouvez utiliser directement dans vos projets de création. Et vous trouverez toujours des articles connexes pour approfondir les thèmes sur le blog devenirauteur.com.